Voix Nue. Cette semaine, Anaëlle Pijat rencontre Hervé Di Rosa. Ce soir, collectionner les arts modernes.
Bonsoir Hervé Di Rosa, merci de nous accueillir de nouveau dans votre atelier parisien. Un très vaste loft où sont accrochées tout autour de nous des peintures et des sculptures de vous en perles de verre, en bronze, en azulejos. Ce sont des œuvres peuplées de personnages et d'animaux très colorés. Cet atelier, vous l'avez installé comme une étape de votre tour du monde. Ce vaste projet dont vous nous avez parlé hier, lancé au début des années 90 et qui est toujours en cours aujourd'hui. Alors, lassée de votre atelier C'est toi et d'un certain confort pictural que vous aviez atteint à la fin des années 80, vous avez parcouru le monde à la recherche de nouvelles techniques de création que vous avez apprises à travers des artisans rencontrés dans différents pays. Ces voyages et ces découvertes ont littéralement infusé votre vie et votre art. Aujourd'hui, tout autour de nous, il y a aussi des objets de votre collection, des objets d'art modeste. Ces arts modestes, dans toute leur diversité, vous les avez définis, défrichés et diffusés à partir de la fin des années 80 dans une boutique puis une galerie. Et c'est cela qui va nous occuper ce soir. Donc, à l'époque où vous aviez votre atelier à 7, vous avez en quelque sorte inventé, vous avez trouvé cette idée de l'art modeste. Et vous racontez souvent que cette formule vous est venue en entendant le lapsus d'une petite fille en 1988 qui disait à ses parents qu'elle voulait retourner voir votre exposition au musée d'art modeste au lieu de parler du musée d'art moderne de la ville de Paris. Je vous ai entendu dire que vous aviez retrouvé cette petite fille. C'est qui ?
Il me semble... Je ne veux pas le dire. C'est une réalisatrice. C'est une réalisatrice du cinéma, mais je ne veux pas le dire. Parce que je ne suis pas sûr. Elle n'est pas sûre d'elle-même, mais pourtant, elle est allée voir l'exposition et tout ça. Mais je ne suis pas sûr que ce soit elle. Enfin, le tout, c'est que cette idée, au départ, cette appellation, je l'ai trouvée pour désigner la première boutique. C'était formidable. L'intérêt, l'idée, c'était de faire comme une œuvre de land art urbain à l'intérieur de la ville. Kissaring venait juste d'ouvrir sa pop shop. J'étais avec lui quand il a ouvert la pop shop, etc. Bien sûr, les Américains, ça va toujours plus vite. Les banques sont toujours plus rapides à prêter l'argent et tout ça. Nous, il a fallu beaucoup plus de temps. On a créé la Diro S.A.R.L. avec mon frère Hervé Perdriol en 87. Et à partir de là, on a commencé à produire. On a produit les premiers jouets, par exemple, les premiers, ce qu'on appelle aujourd'hui art toys, en 88.
Mais d'abord, l'art modeste, en fait, qu'est-ce que c'est ? Vous avez beaucoup dit que c'était des territoires. Quand on parle d'objets d'art modeste, on voit des fanzines, des flyers, de l'art Saint-Sulpicien, des enseignes peintes, des dessins de presse, des objets en sucre, de l'art carcéral, des cadeaux bonux, des boules de neige, des emballages. Comment vous définissez ce concept un peu vagabond ?
Oui, c'est liste à la Prévert. Mais en fait, parce que c'est... La fédération des marges, en fait. C'est tout ce qui est marginal dans toutes les expressions visuelles et autres, parce que de l'art modeste, on peut en trouver au cinéma, au théâtre, dans la littérature et autres. Bien sûr, il y a ce double jeu avec art populaire, mais l'art modeste n'est pas que l'art populaire, justement, et c'est qu'une marge de l'art populaire. C'est tout ce qui se définit mal, des jouets qui ne le sont pas vraiment, des livres qui ne le sont pas vraiment. La bande dessinée n'est pas modeste par essence. La bande dessinée, par exemple, a acquis ses lettres de noblesse aujourd'hui. Mais il y a une bande dessinée qui existe et qui a toujours existé, qui est faite à la chaîne par des gens qui n'essayent pas de faire ni du style ni de l'histoire, qui ne cherchent pas à être des auteurs. Et de là apparaissent des œuvres, des images, des histoires, moi des choses qui me fascinent. Je voulais réunir tout ça parce que justement le terme art populaire était trop restrictif et aussi il y avait ce terme aussi pop culture qui commençait à m'énerver un peu parce que c'est vraiment l'univers anglo-saxon. Bien sûr qu'une grande partie de la pop culture est dans l'art modeste, mais l'art modeste c'est aussi tout ce qui est marginal, underground. On va revenir là à l'autre face de l'Amérique. C'est aussi des choses qui s'adressent à très peu de gens. Aussi bien qu'à un public large. Donc c'est très difficile à cerner. C'est une histoire de regard aussi, d'essayer de regarder les objets comme on se regarde nous-mêmes, sans concession, de pas avoir honte d'aimer ou d'être attiré. Moi, par exemple, je suis attiré par les objets primes. Là, on parlait de cadeaux Bonux. Il y a longtemps que ça n'existe plus, mais on a une très belle collection au Miam de cadeaux Bonux grâce à Bernard Belluc. Mais tous les objets primes qu'on trouve dans des œufs en chocolat, etc., je suis fasciné, par exemple, par les papiers de montage qui se trouvent à l'intérieur, qui des fois sont des œuvres graphiques qui m'époustouflent, voilà. Et ça, je dois le dire réellement, comme parfois certaines bandes dessinées m'ont donné beaucoup plus de sensations que certaines peintures du Louvre. C'est comme ça. Je pense qu'il faut que, et ça, je me suis obligé à le regarder en face et d'essayer de le faire voir aussi à nous, de le partager avec d'autres. Cette histoire de regarder un peu à côté, toujours, mais de pas oublier de regarder au centre, parce qu'au centre, il y a les grands blockbusters américains qui produisent des millions d'objets de merchandising, et ces objets de merchandising, ces figurines, que je collectionne en particulier, sont des œuvres en elles-mêmes, n'ont plus aucun rapport avec le film. Vous voyez, c'est à ce moment-là que devient de l'art modeste. C'est vraiment ce regard-là qui est important.
En général, vous en parlez au pluriel, des arts modestes.
Oui, parce que c'est pas comme l'art brut, c'est pas un genre, c'est pas un genre d'art, c'est pas ni l'art brut ni l'impressionnisme, c'est pas un mouvement, c'est pas l'arte povera. Parce que le seul lien qui peut y avoir avec l'arte povera, c'est que l'art modeste, les arts modestes sont pas traduisibles, sont difficilement traduisibles comme arte povera, l'art pauvre, on ne dit jamais art pauvre. Voilà. Mais ce n'est pas du tout un mouvement artistique, c'est un pays, une fédération, des territoires que je réunis pour leur donner une certaine force de visibilité, finalement.
Et qui va au-delà de la question du bon goût.
Alors là, ça, c'est une émission entière là-dessus qu'on pourrait faire. Hein. Mais j'ai toujours pensé que le bon goût, le mauvais goût, est une affaire sociale avant tout et politique. On a le mauvais goût de l'autre, on a le bon goût de l'autre. Hein. Moi, je me souviens, c'est la mère de François Baron, Annette Vademan, qui m'a beaucoup aidé quand j'étais jeune étudiant aux arts décoratifs et qui m'a appris les codes du bon goût. Elle me disait, on met pas un cuir blanc avec un pantalon blanc et des bottes et des Santiago blanches. Je me disais, ça ne se fait pas. C'est ça, le bon goût et le mauvais goût. Enfin, aujourd'hui, on peut se dire, oui, il y a des choses qui nous paraissent affreuses et tout ça, qui sont tellement mauvais goût, mais qui nous font un effet, qui ont un effet certain, esthétique. En tout cas, sur moi, un effet esthétique. Après, sur d'autres, l'art modeste peut avoir des effets, par rapport à nostalgie, des effets psychanalytiques, quasiment. Mon ami Bernard Belluc, avec qui j'ai créé le Miam, on en reparlera, pour lui, les objets le soignent, les objets font partie de sa vie. Alors que pour moi, les objets sont une source. Et c'est aussi ce regard-là, moi, les collections que je fais, c'est pas trop pour accumuler, parce que c'est plutôt... C'est terriblement embêtant d'accumuler. Il faut des storages, etc. Mais c'est pour donner à voir. Parce qu'on peut donner à voir que dans la quantité, à mon avis.
Pour définir les arts modestes, vous avez beaucoup écrit, mais vous avez aussi beaucoup cartographié. Pourquoi le choix de ce médium? On voit par exemple des cartes de vous dans lesquelles une autoroute relie l'art singulier, le peintre du dimanche, Modestoville, les supermarchés de l'art et Grand Garage.
Oui, parce que j'ai très peu écrit finalement, parce que ça me prend beaucoup de temps pour écrire. Autant je peux faire des peintures assez rapidement, mais écrire, ça pour faire 10 pages, ça me prend des mois. J'ai écrit ce livre, il y a 40 pages de texte, le livre sur l'art modeste, audition Lebec, mais ça m'a pris des années à écrire ça. Alors que la carte, c'est lié à ce que je sais faire. Je sais dessiner, je sais peindre, et donc effectivement, toutes ces idées de fédération des différents territoires, parce qu'on est dans un problème de territorialité, même si dans l'art aujourd'hui on utilise plein de médiums, dans l'art contemporain aussi les choses sont beaucoup plus larges au niveau des possibilités, mais on reste quand même inséré dans des territoires, et inséré donc qui dit territoire dit marge, dit frontière. Et en fait, c'est en dessinant ces territoires, je me suis aperçu que certains s'enclenchaient. Alors après, à partir de là, j'essaye d'écrire. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'universitaires, j'ai besoin de gens. On en avait parlé avec le Musée international des arts modestes. J'essaie d'ouvrir ça aux études d'histoire de l'art, où des gens formés, pas comme moi, parce que j'ai aucune formation universitaire, peuvent penser à des problèmes qui sont des problèmes très larges.
Vous parlez souvent dans votre recherche sur cette définition des arts modestes de confirmations que vous avez reçues. Par exemple, en 1989, la visite de l'exposition Magicien de la Terre au Centre Pompidou, dont le commissaire était Jean-Hubert Martin, qui associait des œuvres d'artistes contemporains, Daniel Buren, Christian Boltanski, et d'artistes extra-occidentaux qui étaient alors complètement inconnus. Et vous dites que cette exposition a été pour vous une confirmation dans vos recherches. Je voulais savoir comment vous aviez reçu dessus une autre exposition qui a lieu en 1990 au MoMA, qui s'appelle High and Low, qui a pour sous-titre Art moderne et culture populaire, et qui mêlait des œuvres de Miro, de Rauschenberg ou de Picasso avec des bandes dessinées et des emballages publicitaires.
Ah oui, figurez-vous que je l'ai vue, cette exposition, High and Low. C'est ça qui est, j'étais en 90 à New York. Et c'est vrai, quand on voit, c'est là où j'ai vu les originaux, les bandes dessinées desquelles Liechtenstein s'influençait, comment il mettait les calques dessus, il quadrillait, etc. Et on voit toute la fabrication manuelle. C'est pour ça qu'avec Liechtenstein, j'ai beaucoup de problèmes avec le pop art comme avec l'art américain, subventionné par la CIA, devrais-je dire. C'est ça qui me gêne le plus. C'est étrange, mais ça me gêne énormément, cette histoire-là. Et j'ai de la peine après à trouver autre chose que des choses bien faites, bien orchestrées, bien organisées. Et Liechtenstein avait quelque chose qui me passionnait, c'était cette fabrication. Et justement, dans High and Low, on voit cette fabrication. Et donc, c'est aussi, ça me confirme l'idée que j'ai envie qu'on voit les sources aussi. Moi, depuis des dizaines d'années, je vois plein d'artistes dans le monde entier, surtout anglo-saxons, qui m'intéressent énormément. Mais beaucoup de collectionneurs, d'amateurs qui voient ce travail ne connaissent pas les sources populaires, ne connaissent pas les sources-là. C'est vrai que l'idée du Musée international des arts modernes, c'était au départ, il y a plusieurs protocoles, plusieurs idées bien précises, mais une des idées phares, c'est de donner à voir les sources populaire et modeste de toute la création contemporaine. J'exagère un peu, mais d'une partie en tout cas.
Alors, venons-en à cette collection d'art modeste, Hervé Di Rosa. Le fait de collectionner, c'est vraiment toute une partie de votre vie. On pourrait imaginer qu'enfant, vous étiez déjà collectionneur. Est-ce que c'était le cas?
J'ai toujours collectionné. D'abord, la bande dessinée, c'est quoi? C'est des collections d'images. Hein. Puis après, j'ai collectionné les livres de bande dessinée, les magazines. Puis après, les magazines d'art, les livres, puis après, les images. Et puis, quand j'ai commencé à trouver des objets qui figuraient, hein, des figures, il y en avait très peu dans les années 70, ce qu'on appelle les figurines articulées, action figures, ou même les figurines en plastique, à part dans les cadeaux de lessive, etc. Et j'ai commencé à collectionner tout ce qui étaient des personnages, finalement, comme pour faire une énorme encyclopédie. Et cette collection, après, bien sûr, s'est agrandie encore plus quand j'ai commencé à bouger. Parce que, alors là, j'en ai trouvé en Afrique, j'en ai trouvé au Mexique. Et quand je suis allé aux États-Unis, là, alors je suis revenu avec des dizaines de cartons remplis de personnages, de super-héros
en plastique. Que vous ne déballez pas.
Et non, parce que je suis quand même collectionneur, quand même. Ouais. Des fois, je les achète en double pour les déballer, pour avoir quand même le plaisir tactile, parce qu'il y a un vrai plaisir. Non, c'est là aussi où l'idée de l'art modeste, avec ses figurines, par exemple, je raconte tout le temps cette histoire, mais c'est très important. Le jouet, ça fait partie de l'art populaire. C'est comme on dit, pour que l'art modeste serait inutile comme expression par rapport à l'art populaire. Et pas du tout, parce que comment on classe maintenant ces figurines qui ne sont plus achetées par des enfants. La plupart des figurines, il y a certaines figurines qui sont un peu plus simples, dirons-nous, mal foutues, qui sont des merchandising des films qui sont vendus dans les grands magasins, mais les autres figurines qui sont vendues dans les magasins spécialisés, c'est des jeunes adultes ou des adultes ou des vieux adolescents qui achètent ça, et souvent ils les déballent pas, donc c'est de la sculpture réellement. Et même si l'art modeste aussi doit réévaluer aussi ceux qui ont créé ça. Hein, on parlait tout à l'heure des artisans. Les artisans ne sont peut-être pas aux co-auteurs, mais ils ont un nom. Et là, les personnes qui créent les figurines de Batman, de Superman, là, ils sont vraiment co-auteurs parce qu'avec un cahier des charges énorme, et moi, je peux vous dire, j'en ai des exemples par milliers même, ils arrivent à donner une impulsion dans la matière même, dans les volumes même, puisque ces personnages-là ne sortent pas des machines tout seuls. Il y a un monsieur, il y a un artiste, un modeleur, qui au départ fait les personnages en terre, presque à un niveau de connaissance comme la Renaissance. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est un artiste modeste. C'est quelqu'un qui a des connaissances académiques extraordinaires.
Dans un texte assez ancien sur votre travail, Otto Hahn, qui était le grand critique de l'Express dans les années 60 et 70, parle à propos de cette collection de figurines d'un côté comédie humaine balzacienne.
C'est vrai, parce que j'ai pas beaucoup collectionné, par exemple, les voitures, tout ça. Si je collectionne les véhicules, s'ils sont uniquement occupés par des personnages, j'ai toutes les voitures de Tintin, toutes les voitures de Black et Mortimer, les vaisseaux et de Black et Mortimer, etc. C'est ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est comment, à travers les âges, sur tout support, on crée cette humanité. C'est une autre humanité, ces personnages en plastique, c'est une autre humanité, mais c'est mon humanité, c'est celle aussi qui est dans mes peintures. C'est toujours créer d'autres humanités, d'autres forme de vie, finalement, forme de vie. Et quand je l'ai réuni, comme on a pu le voir à la Maison Rouge, il y a vraiment une impression d'énergie et de vie, moi, et c'est pas un rapport à l'enfance, tout ça, parce que comme je l'ai dit, j'ai pas des super souvenirs d'enfance, mais c'est vraiment un rapport peut-être à cette sensation d'évasion et d'autre chose vers l'ailleurs, quand c'est coupé même de la marque de lessive, quand c'est coupé du film de cinéma, ou quand même c'est coupé de la bande dessinée ou de la série de dessin animation, que ces personnages deviennent en eux-mêmes des êtres tangibles dans notre univers physique.
Parmi vos obsessions, il y a les enseignes peintes, vous en avez parlé un peu hier soir. Il y a aussi des éléments plus abstraits. Par exemple, dans votre collection, il y a une dimension que je dirais presque conceptuelle, à travers un ensemble de saints régionaux non reconnus.
Ah oui, mais ça, parce que c'est comme ça, ça se rapporte aussi à ma passion pour les ex-voto, à ma passion pour le catholicisme. c'est vrai que j'ai eu un retour à la fois catholique quand j'ai habité au Mexique. Là, moi qui ai une formation, vraiment j'ai fait ma communion, tout ça, vraiment catholique, mais pas du tout pratiquant. Hein. Ma mère, très proche du curé, donc anticommuniste total, on n'en a pas trop parlé l'autre jour, mais et mon père à la CGT, militant, convaincu, etc. Pas au Parti communiste, mais compagnon de route. Et donc le catholicisme, pour moi, a été une espèce de double truc d'obligation culturelle que j'ai très vite oublié pendant longtemps et qui est revenu à ce moment du Mexique et après qui s'est épanoui quand je suis allé habiter à Séville. et c'est vrai, cette multitude de saints. Là aujourd'hui, je suis en train de regarder sur les saints en Italie. Il y a un magazine en Italie uniquement sur les saints, un magazine mensuel. Je suis en train de récupérer les numéros. Enfin, c'est des univers passionnants, qui sont loin de nous, mais à côté. Et moi, excusez-moi, mais pour moi, c'est vrai que la religion, elle passe beaucoup par les objets. Beaucoup par l'icône, quoi. C'est un peu antinomique, mais ça passe beaucoup par là.
Et pourtant, en Bulgarie?
Et pourtant, en Bulgarie, j'étais pas encore dans ma période mystique. J'avais pas encore atteint ma période mystique, d'ailleurs. Mais j'avais consulté un pope, quand même, quand j'avais fait toute la série des icônes et tout ça. Oh, parce qu'il y en avait une icône un peu avec des femmes nues. Enfin, il y avait quelques scènes un peu osées, dirions-nous. Et le pope m'a dit, mais il n'y a aucun souci. Ce ne sont pas des icônes, il m'a dit. Ce sont des peintures signées par vous.
Il avait raison.
Et il avait raison, ce n'étaient pas des icônes.
Antoine de Galbert, dont vous parliez à l'instant, magnifique collectionneur qui a ouvert et fermé la Maison Rouge à Paris, pour montrer des collections et parfois la sienne, et qui a montré votre collection mêlée à votre travail en 2016, écrit de vous, il ne collectionne pas, il échange, collecte, s'approprie des œuvres ou des objets sans statut. Comment collectionnez-vous, Hervé Di Rosa ?
Il a raison, je collecte, c'est vrai. Je collecte, je veux plus procéder, parce qu'après, là aujourd'hui, j'en suis à des problèmes de place, parce que j'ai fait une première donation au Musée international de l'Est, mais là, je suis en train de réfléchir à une seconde donation, peut-être, parce qu'il y a un problème de place, et en même temps, aujourd'hui, les manières de collecter sont très différentes, parce qu'aujourd'hui, je collecte aussi sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, on trouve des choses, je trouve sur Internet des choses que je ne trouverais pas, même en voyageant, même en faisant quatre fois le tour de la Terre, il y a des choses que je ne trouve pas, que je ne trouverais que sur Internet. Mais aussi, il y a énormément de choses, et c'est là, c'est le reproche de l'Internet, où on croit, où tout le monde pense aujourd'hui qu'avec l'Internet, on a accès à tout. Non, quand on bouge, on rencontre pas que des gens, mais des objets et des images qu'on ne rencontre pas ailleurs. Et c'est celle-ci qui m'intéresse. Celle-ci, c'est toujours la marge, moi, qui m'a intéressé. C'est d'ailleurs comme ça que j'essaie de me positionner aussi. C'est inconfortable, vous me direz, mais c'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est intéressant. Et d'ailleurs, souvent, quand il y a des artistes qui m'intéressent, quand ils passent de la marge au centre, souvent, même si leur travail est très bon, je m'en désintéresse étrangement.
Alors, vous commenciez à nous en parler tout à l'heure. En 1987, vous créez ce que vous avez appelé Diro S.A.R.L., donc une société...
Une vraie Diro, D.I.R.O.S.A.R.L. On trouvait le jeu de mots amusant. Il nous a pas trop porté chance, mais enfin, ça a été en 87, c'est la première histoire d'entrepreneuriat, parce que c'était les années 80, et moi aussi, comme un couillon, je croyais qu'on pouvait faire tout soi-même, qu'on pouvait vendre ses œuvres, etc. Bien sûr, je travaillais avec la galerie L'Âge de Salomon, puis après avec Louis Carré, puisque la galerie, on a créé cette société, puis après ouvert une galerie rue du Renard en collaboration avec Pierre et Marianne Nahon, avec la galerie Beaubourg.
Quel était leur rôle?
Mais c'est eux qui ont tout payé et qui ont d'ailleurs tout encaissé, puisqu'il nous est rien resté. Même les décors que j'avais faits, je les ai retrouvés dans une vente publique il y a quelques années. Enfin, bon, mais ils avaient quand même joué le jeu. On était venu avec un projet complètement délirant quand même, de vendre les quelques objets qu'on produisait. C'était pas on produisait ou on coproduisait. Nous sommes arrivés jusqu'à 400 références d'objets, des dizaines de chaussettes, de bérets, d'assiettes, de toys. Alors des choses dont je suis très fier, comme les deux boîtes de jouets réalisées à Périgueux avec Starlux par exemple, qui est une boîte de jouets qui a disparu mais qui est une boîte historique de jouets. C'est eux qui faisaient les monstres préhistoriques en plastique dur, les soldats de l'Empire. Donc je suis très et trouvez-moi un Art Toys avant 87, ça n'existe pas, quoi. Donc, heureux de. Oui, on les a coproduits avec cette usine de Périgueux, avec cette usine de jouets Starlux. Et après, on a eu des histoires des problèmes de diffusion. Et surtout, c'est un peu difficile d'avoir des collaborateurs comme Pierre et Marianne, qui sont des grands professionnels, mais un peu compliqués.
Pierre et Marianne
Nahon. On avait envie d'avoir notre lieu, donc Hervé Perdriol, mon frère et moi. Et nous avons déménagé rue Charlot. Et là, nous avons créé la galerie de l'Art Modeste.
Dans vos inspirations, il y avait le pop-shop de Kissaring qui avait ouvert à New York en 1984. Est-ce que c'était le même modèle ?
Non, c'était pas du tout le même modèle parce que c'est un modèle américain c'était formidable. C'était la première fois qu'un artiste, depuis des années, je rêvais à faire des objets dérivés. C'était pas des produits dérivés. Même moi, je fais l'erreur aujourd'hui. Je voulais trouver une forme d'art là. C'est ce truc un peu ringard aujourd'hui, démocratiser l'art. C'était vraiment cette idée. J'avais envie parce que je voyais tout le temps les mêmes gens qui venaient à mes vernissages, que ce soit à Londres, à New York, à Paris. C'était quand même soit des gens cultivés, soit des gens qui des collectionneurs, etc. J'avais envie aussi de m'adresser à des gens comme mes parents et donc de faire des vraies œuvres d'art, pas des reproductions, pas des posters, qui accessibles à des prix accessibles. Et il fallait que ce soit des objets usuel pour que ça fonctionne. On peut pas vendre des. Après, on tombe dans l'édition d'art, dans la gravure, la lithographie, tout ça, que j'ai aussi beaucoup, où j'ai beaucoup travaillé. Alors, que ce soit les jouets, les t-shirts, les assiettes, les chaussettes, les cravates, de la vaisselle, etc., etc. Tout était créé, vraiment, je dessinais exactement chaque dessin pour tel t-shirt. Chaque objet était une œuvre. C'était pas des graphistes qui reprenaient une partie de Toulouse-Lautrec pour en faire un parapluie pour vendre au musée d'Orsay. C'était pas du tout la même idée. C'était vraiment cette idée-là. Et cette idée-là était très compliquée à l'époque. Il n'y avait pas Internet et tout ça. On s'est heurté à des problèmes de diffusion, de contrats, etc. Terriblement compliqués.
Mais vous avez eu un très grand succès dans la presse. Il y a eu des papiers dans le Figaro Magazine, c'est autant vrai. Que dans Pif Gadget, autant que dans Paris Match. Vrai, et je crois vrai. Que le Jardin des Modes, qui était alors dirigé par Alice Morgan, oui. a même publié un patron d'un tricot.
Oui, même un supplément d'Irosa avec plusieurs patrons de tricot d'Irosa. Bien sûr, les René, Raphaël, etc. Raymond et René, c'était très beau tricot. D'ailleurs, ma tante, les a tricotés, ma défunte tante Fifi, qui m'a tant aidé quand j'étais à Paris au début, dont on a parlé il y a quelques jours, les a tricotés. Donc c'est vrai qu'il y avait le but était donné, et en fait l'idée aussi très simple, c'était si on arrivait à gagner de l'argent avec les t-shirts, etc., de créer des expositions. C'est pour ça qu'on voulait une galerie plus qu'une boutique, donc il y avait les deux. C'était de faire revoir des choses que déjà j'avais envie de faire revoir des choses qu'on ne montrait pas ailleurs.
Donc la galerie qui ouvre rue de Poitou en 1989 avait vocation à faire à la fois des événements dans les murs de la galerie, mais aussi des événements hors les murs. Je voulais revenir, je crois que c'est la galerie qui a produit l'exposition Viva di Rosa, qui a eu lieu au musée d'art moderne,
de la ville de Paris,
et non
oui,
pas
oui.
d'art modeste, oui, de oui, la ville de Paris.
Tout à fait, c'est cette exposition-là, oui.
Au musée des enfants. Et je me disais que le musée des enfants, qui a disparu aujourd'hui, était un endroit très utopique, qui probablement a dû vous intéresser beaucoup.
Mais oui, et puis c'était la seule fois qu'on me proposait, parce que il faut dire que les propositions des musées parisiens n'ont pas été foules ces 40 dernières années. Hein. Donc, et là, il y avait une ouverture, il y avait une grande liberté. La directrice de l'époque était formidable. Il y avait Suzanne Paget aussi, qui avait donné son accord dans les lieux mêmes où on avait fait l'exposition. D'ailleurs, la première exposition en 81 que je fais, c'était aux ateliers 81-82, c'était l'exposition au musée d'art moderne à la ville de Paris. Et je veux pas être injuste, parce que le musée d'art moderne à la ville de Paris, contrairement à Beaubourg, m'a exposé.
Et le musée des enfants, c'était donc une grande installation qui s'adressait à des enfants.
Voilà, enfin, à des enfants. C'était à des enfants un peu particuliers, peut-être. Maintenant, aujourd'hui, je me souviens, j'ai jamais rien fait en direction des enfants. Ça, c'est un truc. C'était pour moi une occasion de pouvoir faire une exposition totale, que je voulais totale. On avait à ce temps-là, les projets avec mon frère aussi, de faire un parc aquatique aussi. On avait fait des projets de parc aquatique. C'était vraiment un art lié. C'était aussi le complexe du Baos un peu. Ouais. C'était un art vraiment lié à la vie, au quotidien.
Et dans la galerie, vous avez beaucoup montré donc des expositions d'artistes un peu en marge. Vous avez aussi montré de l'art brut, par exemple André Robillard ou Thérèse Bonnel-Albet. Quelle est l'exposition dont vous êtes le plus fier ?
Ah ben il y en a deux. Il y en a une, c'est la dernière exposition de Willem van Genk, qui est quand même un des grands monsieur de l'art brut. Sa dernière exposition était chez nous. Ils en parlent dans leur catalogue, après il est mort quelques années après. Et puis l'exposition de tous les dessins de presse refusés pour la première guerre du Golfe. Oh. Et là, il y avait tout, il y avait mes amis Volinsky, il y avait Cabu, il y avait Willem, il y avait... Enfin, il y avait plein de gens qui sont plus là aujourd'hui, en fait. Et donc, c'était une exposition très importante. Donc, on a fait voir les frères Biascamano, qui sont des artistes de set, avoir des choses qu'on ne voyait pas ailleurs. Et malheureusement, et ça, c'est très important, parce que la manière de fonctionner, donc, d'essayer de fonctionner dans le système libéral capitaliste, c'est-à-dire les emprunts à la banque, les ventes d'objets, les diffusions, etc., on est rentré dans un système qui était très lié. Il y avait quand même trois salaires, il y avait trois employés, trois salaires, etc. Et dans le système, c'est compliqué, et c'est là où j'ai compris que c'était pas possible de le faire de cette manière, ce que je voulais faire.
La galerie, donc, ferme en 1994. Peut-être une de ses dernières productions a posteriori est une série de dessins animés que vous avez produit pour Canal+ en 1999.
Tout à fait. Ça, c'était le vieux projet, puisque quand j'étais aux arts décoratifs, en seconde section, en troisième année, j'ai choisi l'animation. Et donc, j'ai fait pas avec Boiron, d'ailleurs, on était ensemble, et nous avons fait pas mal d'expériences animées. Et donc, mon rêve depuis, et d'ailleurs, il y a eu plusieurs prototypes dans les années 80, il y a eu deux pilotes, fait avec Hubert de Maximi, entre autres, je voulais réaliser une vraie série d'animation, dans les cadres de la série d'animation, pas du tout un film expérimental, avec les nécessités et la production. Ça. Et donc, c'est très très intéressant. Et j'ai mis des années, c'est vrai qu'Hervé Perdriol, il a beaucoup travaillé. Le projet s'est concrétisé quand la Galerie de l'Art Modeste existait. Et on a mis 2-3 ans à le produire. C'était quand même 26 fois 26 minutes. Il devait y avoir... c'était un budget gigantesque par rapport au budget qu'on générait dans l'art habituellement. Et c'était vraiment... Le contraste, ce qui m'intéressait, c'était la distance qu'il y avait entre... Là, il y a une grande distance, parce qu'il y a 400 personnes qui travaillent dessus. Et dans la musique, les dialogues, on les contrôle pas. Bon, je contrôlais le dessin, mais il y a plein de choses qu'on contrôle pas. Et c'est cette finalité qui m'intéressait, quoi. Là, c'est peut-être la partie la plus conceptuelle de mon travail, quoi. C'est pas... Il faut pas regarder cette série animée. Pour moi, elle est pas dans la perfection de l'animation, etc. Alors que c'est très, très beau. Les réalisateurs ont fait un très beau travail. Mais il y a beaucoup de manques sur la musique, sur les dialogues, etc. Je contrôlais pas tout, mais ça m'intéressait de pas contrôler tout. C'était un peu aussi le travail que j'avais mené, que j'allais mener au Cameroun aussi, ou au Ghana, où je laissais faire la main de l'artisan à ma place. Là, c'est une démonstration en grandeur réelle, quoi.
Donc, 1994, il s'avère que le projet de la galerie n'est pas tout à fait rentable. D'ailleurs, il avait toujours...
Il n'était pas vraiment viable.
Il n'était pas vraiment viable.
Parce que ce n'était pas que la rentabilité, c'était aussi des problèmes de personnes.
Mais il avait d'ailleurs toujours été prévu pour être un projet temporaire. Et il se révèle qu'il est peut-être le moment de passer à une phase institutionnelle de ce projet. C'est ce que nous allons voir demain.
Ah, demain déjà.
Merci Hervé Di Rosa, à demain.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Anaël Pijat avec Hervé Di Rosa. À voix nue, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Sébastien Huel, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.